Bonjour, ici c'est Françoise de Saint-Austre-Berthe. J'ai beaucoup apprécié l'émission d'aujourd'hui, mais j'ai un petit regret en fait, c'est qu'à la fin, quand vous êtes tu pour nous laisser entendre le vent, mais c'était trop court. C'est pas que j'apprécie le silence pendant l'émission, mais c'était un peu court quand même, quoi. Voilà. Mais super, super, super. Merci.
Bonjour, la Terre au Carré. Je vous appelle de Guadeloupe pour réagir au sujet de la pollution lumineuse. La Guadeloupe est en train de rattraper son retard en matière de suréclairage grâce à cette belle technologie des LED. Les installations de lampadaires et de projecteurs LED dans les espaces publics et privés, le long des routes, ne cessent de s'étendre et nous déconnectent totalement du ciel étoilé. Les éclairages sont agressifs, car trop lumineux, trop blancs, trop nombreux, mal orientés et mal conçus, et donc particulièrement polluants et néfastes. Ils sont visibles à des kilomètres et restent bien souvent allumés toute la nuit, pour rien, pour personne. Bref, encore un pas de plus vers un développement pas très durable, contrairement à ce que pourront si bien le prétendre les collectivités territoriales. Merci, au revoir.
Clarisse de Andernos-les-Bains. Bonjour Mathieu, bonjour Camille, et merci pour votre émission. C'est vraiment un plaisir de vous entendre, on s'évade, on rêve et on garde l'espoir. Merci beaucoup. Une annonce, samedi 5 février, sur le bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains, il y a une visite pédagogique du port de plaisance du Bétail dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Rendez-vous à 14h30 devant la cathédrale du port pour voir une plage préservée, une plage dégradée et le projet de rénovation au détriment de l'estran de ce port de plaisance. Donc, samedi 5 février à Andernos. Et à bientôt.
Bonjour, c'est Paul, j'appelle d'Orvault, dans Loire-Atlantique. J'apporte mon petit témoignage, je suis pyrénéiste depuis les années 60. À cette époque-là, entre le pic de Clarabide et le pic de Montbard, il y avait 14 km de glaciers ininterrompus. Au-dessus du lac d'Eau, il y avait le pic Perdiguerre avec les glaciers du Portillon qui se jetaient dans le lac du Portillon qui était gelé jusqu'au plus fort de l'année. Et aujourd'hui, tous ces glaciers ont disparu. Il n'y a plus que des tas de cailloux et dans le lac du Portillon, en été, il y a les gens qui se baignent. Alors pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que la Terre se réchauffe, en voilà un témoignage flagrant. Au revoir.
Merci Paul pour votre message. Les glaciers justement Pyrénées, on va en parler dans un instant. Et puis c'est promis, on vous fera entendre plus longuement les sons de la nature puisque vous en redemandez. Alors en tout cas, continuez à nous envoyer vos messages et à réagir au thème de l'émission en nous appelant sur le répondeur au 01 56 40 45 45. Et après le téléphérique, le télésiège, c'est à la fois une petite ville thermale des Hautes-Pyrénées située à 900 mètres d'altitude et un domaine skiable de 21 pistes. Nous sommes à Cotterêts cet après-midi pour notre nouvelle escale hivernale dans les Pyrénées à l'occasion des 4 saisons de la Terre au Carré. On a choisi justement de commencer l'émission en chaussant nos skis, en vous emmenant au sommet du Grand Barba pour observer le massif. On l'aperçoit d'ailleurs déjà quasiment, Camille.
Et il se dessine sous nos yeux, là. On est vraiment en train de monter. On est sur le télésiège. 1330 mètres, m'a dit le monsieur. On se prend 450 mètres de dénivelé. Et là, il y a le soleil qui arrive pile en face de nous. Ça va être parfait.
On va imaginer donc à quoi pourrait ressembler dans quelques années ce massif. Car ici, évidemment, comme ailleurs, l'écosystème montagnard est particulièrement sensible et vulnérable au changement climatique. Et pour en parler, ils sont derrière nous dans le télésiège. Le chercheur Samuel Morin et le guide de haute montagne Jean-Louis Lechêne nous ont accompagnés. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien? Bon, eh ben on fait la balade ensemble, on va arriver dans quelques minutes. Vous allez nous expliquer dans un instant quelle est aujourd'hui la réalité du changement climatique dans cette montagne et puis évidemment quels sont les scénarios pour l'avenir. Et puis Camille, on va redescendre ensuite pour discuter avec son directeur, celui de la station, Dorian Noyer, pour comprendre comment les stations s'adaptent à ces changements. Puis Claude Florence sera également avec nous, elle fait partie de l'association Cotterêts Devenir, une asso qui travaille pour la préservation de l'environnement autour du village. Vous pouvez même nous poser vos questions à mes auditeurs pour nos invités, la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Et à 14h30, Camille, évidemment, on passera au vert.
Et oui, j'ai continué, on a gardé les skis au pied, Mathieu. Je suis allée sur les pistes à la rencontre des skieurs parce que bon, les stations réfléchissent, mais est-ce que eux eux, les skieurs, sont prêts à renoncer. Et là, comment dire?
Vous êtes en train de me faire culpabiliser.
C'est chiant, les questions sur la pollution.
Et là, merci, vous venez de me faire perdre mon insouciance de l'après-midi, quoi. Maintenant, je vais être là, merde, mon impact.
Oui, je me suis fait recevoir bien comme il faut.
Eh ben, ça promet. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, on retrouvera le reportage d'Anna Elverzo consacré aux luttes menées dans les Pyrénées. On fera connaissance aujourd'hui avec le collectif Stop Camion qui se bat contre le passage incessant des poids lourds dans la vallée d'Aspe. Voilà donc pour le sommaire de cette deuxième Terreau Carré pyrénéenne réalisée par Valérie Ayestaraï, David Leprince, préparé par Lucie Sarfati, avec Olivia Branger, Jérémy Tuile, Guillaume Rialan et Rémi Sistiaga à la technique. Et donc, le grand Barba nous attend, il est là en face de nous.
Et ça y est, on est au soleil.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour la Terre au carré. Bienvenue dans nos belles montagnes des Pyrénées.
On a plein de traces de renards là sous nos pieds.
Neige immaculée avec les petites traces de pattes de renard, tiens.
Il fait des petits zigzags, hein. Ouais, ouais.
Allez. Derrière nous, la vue est incroyable. Vu qu'on est en train de monter, on a vraiment tout le cirque en fait en face de nous, c'est magnifique.
Ça se déploie. Et donc on va arriver sur la crête. Et là aussi je pense que la vue va être pas mal du tout. Donc ça doit être le grand Barba en fait. La pointe là-bas, je pense.
Ah,
à moins que ce soit celle-là, ouais. Jean-Louis, ouais. Le grand Barba, c'est celui-là?
Non, il est derrière la crête.
Ah, on le voit pas là. Derrière. D'accord.
C'est un sommet qui est à 2816 mètres, qu'on va peut-être voir tout à l'heure.
Et ça, c'est des traces de renards, alors ce qu'on voit ici, là?
Oui, c'est... Ils étaient plusieurs tout à l'heure, j'en ai compté trois. Et en fait, ils arpentent toute la montée sous les sièges en vue de manger un sandwich échappé par un touriste. Bon, ils sont courageux quand même.
Ah, on voit depuis du midi.
Ah, on voit depuis du midi de l'autre côté là-bas, regardez, pile en face de nous.
C'est là où on était hier.
Incroyable, coucou.
Le col du Tourmalet est là-bas aussi. Mais c'est bien ce petit calme-là.
Ouais.
Ça va, Olivia?
Super. Moi, je fais que des trucs que j'avais jamais fait. Je suis trop contente.
C'est vrai?
Olivia, c'est notre technicienne. Et t'avais jamais fait de télésiège avant? Non?
Non.
Et là, t'es harnachée avec tout ton matériel, coincée dans le télésiège.
Là, j'avais resté coincée.
Ouais. Non, au pire, on dirait au monsieur de l'arrêter.
Oui, c'est l'arrivée qui va être un peu épique, peut-être. Hein.
Regarde, là, le mec qui fait du snow.
En hors-piste.
En hors-piste, moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ouais. Pente, c'est pentu, il y a la vitesse.
Non, on va pas te faire commencer par ça. Hein.
Samuel, quand on est comme ça sur un télésiège, face à une station de ski, face à la montagne, on s'extasie un peu devant la neige immaculée. Mais en fait, il y a quelle proportion de neige véritable, entre guillemets, si je dois dire, et neige de culture, je crois qu'on dit comme ça.
Alors ici à haute altitude, c'est vraiment exclusivement de la neige naturelle, en fait, de la neige qui tombe du ciel sous forme de flocons. On ne voit pas autour de nous, à cette altitude, dans la station, là, d'enneigeurs ou de canons en neige, comme on les appelle parfois. On les retrouve plus bas dans la station, et après, ça dépend des années et des périodes de la saison. La proportion qui est produite par ces enneigeurs, par ces canons, elle peut atteindre 30-40%, parfois un petit peu plus, en fonction des conditions et en fonction des précipitations naturelles.
D'accord, mais là, à l'altitude à laquelle on est, là, la neige qui est pile sous mes skis, là, je peux lui faire confiance, entre guillemets, je peux gentiment m'extasier devant elle sans scrupule.
Oui, on peut s'extasier devant ce paysage qui est enneigé. D'ailleurs, on voit bien que le paysage est très enneigé, y compris autour des pistes. Et effectivement, si cette neige était principalement produite, eh bien, on retrouverait la neige sur la piste et pas autour.
Ah, ça y est, on arrive. À 20 mètres.
Alors tu vois, Olivia, il y a les petits panneaux qui t'indiquent à quel moment tu dois lever la barre. Donc pas tout de suite, parce que là on est encore un peu trop haut.
Ah monsieur. Ça doit être le grand Barba, voilà.
Ah oui, qu'est-ce qu'il est beau.
Il est beau.
Il se détache là,
vraiment,
comme
une pointe.
Comme une pointe, ouais.
Opération descente du télésiège.
Allez, on soulève. On soulève la barre, tout le monde est prêt. 1, 2, 3, on enlève les pieds, Olivia. C'est parti.
Attention.
Bonjour.
Bonjour. Ah,
merci.
Arrivée télésiège.
Ok, merci Clément.
Voilà, nous voici donc arrivés. Alors Jean-Louis, quand même, c'est vous l'enfant du pays, donc vous allez nous choisir la plus belle vue pour discuter sur cette crête.
Le bon spot.
Où est-ce que vous nous emmenez alors?
Ici, on se trouve sur la crête du Lys à 2350 mètres. Et on a une vue superbe sur les Pyrénées.
Ah ouais.
Sur la gauche, on voit le Montaigu qui est assez éloigné sur le piémont pyrénéen. Et sur la droite, le fameux pic du Midi de Bigorre.
Alors Jean-Louis Lechêne, vous êtes guide de haute montagne et moniteur de ski indépendant. Et puis à vos côtés, Samuel Morin, qui est chercheur à Météo France, directeur du Centre National de Recherche Météorologique. Alors Jean-Louis Lechêne, c'est quand même vous, hein, je le disais, l'enfant du pays. Vous connaissez parfaitement bien ces montagnes pyrénéennes. Vous avez gravi, je crois, des centaines de fois certains sommets. Vous avez réalisé beaucoup de premières également dans le massif. Et alors vous faites partie du mouvement pyrénéiste, c'est ça? Ça veut dire quoi?
Pyrénéiste, c'est un mot qui est venu à l'époque de l'aristocratie, où Russell et d'autres, le comte Henri Russell, prétendaient que le pyrénéisme était affaire d'émerveillement et de contemplation, par rapport au mot alpinisme qui était plus grimpe, escalade.
Est-ce que cette montagne, Jean-Louis, depuis que vous êtes là, depuis l'âge de vos 16 ans, hein, quasiment, donc ça fait plus de 50 ans maintenant, est-ce que vous l'avez vu beaucoup changer au fil des décennies?
En fait, au départ, bon, moi j'ai eu la chance de travailler avec Étienne Florence, hein, qui était le papa en fait de Jean-Pierre, le maire actuel de Cotteray. Et donc, en travaillant au refuge des Oulettes, et il m'emmenait parfois avec lui et j'observais la glaciation, bien sûr, qui, à mon grand étonnement, assez vite a fondu sous mes yeux. Et je pensais pas en fait que cette fonte serait aussi rapide. Et c'est à partir surtout des années 76 que le réchauffement climatique, comme on dit aujourd'hui, a été marqué. Mais enfin, pas de panique, hein. La fonte des glaciers a toujours existé. Elle a commencé sur ce qu'on appelle le quaternaire il y a quand même 2 millions d'années. Et à cette époque, ici, il y a 40 000 ans, par exemple, on a face à nous la vallée de Cotteray. Le glacier faisait 700 mètres d'épaisseur. Et sur 40 km, il arrivait jusqu'au lac de Lourdes. Hein, le lac de Lourdes est un lac glaciaire. Et les glaciers terminaient sur la plaine, en fait. Et donc, ces montagnes qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un rabotement des glaciers qui se sont écoulés, comme tous les glaciers du monde entier.
Et alors, Jean-Louis, vous dites pas de panique. Samuel Morin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce pas de panique? C'est une glaciation. Que dit le chercheur que vous êtes là-dessus?
Non, la panique, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut avoir un regard lucide sur l'évolution des glaciers ici dans les Pyrénées, dans les Alpes et d'autres régions du monde. En fait, le recul des glaciers qu'on constate depuis plusieurs décennies, il est vraiment sans précédent en termes de vitesse au cours des dernières millénaires. Et dans les Pyrénées, il y a encore quelques glaciers qui reculent à vitesse accélérée parce qu'il va être de plus en plus chaud l'été. Et donc les glaciers fondent de plus en plus l'été et la neige hivernale ne suffit pas à compenser cette perte. Et donc les glaciers perdent de la masse et on s'attend dans les Pyrénées à ce que d'ici quelques décennies, la plupart des glaciers aient totalement disparu ou réduit à une portion extrêmement réduite.
Et Samuel Morin, en quoi les Pyrénées sont différents d'autres massifs français, en particulier les Alpes? C'est quoi? C'est l'altitude?
Qu'on constate dans les Pyrénées comme ailleurs en France, un réchauffement de plus de 1,5 degré depuis le début du XXe siècle. Ce réchauffement d'ailleurs, il s'est presque entièrement fait sur les dernières décennies dans les Pyrénées et il entraîne principalement à basse et moyenne altitude, en dessous de 2000 mètres d'altitude, une réduction des quantités de précipitations neigeuses. Il neige de moins en moins, il pleut de plus en plus. À très haute altitude, la plupart du temps, il fait suffisamment froid pour que les précipitations pendant l'hiver tombent sous forme de neige. Mais il arrive de plus en plus régulièrement que même en plein cœur de l'hiver, on ait des précipitations pluvieuses jusqu'à des températures relativement élevées, ce qui ne permet pas au manteau neigeux de se constituer et qui a aussi des conséquences pour les risques naturels, les crues, les avalanches.
Samuel Morin, comment vous réagissez finalement aux propos de Jean-Louis, hein, qui vit ici, qui est observateur des glaciers depuis très longtemps? Il dit, bah oui, ça fond, effectivement, mais ça ne m'inquiète pas pour autant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Tout dépend des échelles de temps, en fait. C'est-à-dire que si on se préoccupe des prochaines décennies, on s'attaque quand même à des bouleversements assez majeurs, en fait. Des conditions climatiques, des canicules de plus en plus fortes à basse altitude. Ici, en montagne, un enneigement qui, à basse et moyenne altitude, sera quand même de plus en plus éphémère au cours de l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'hivers enneigés, mais ils seront de moins en moins nombreux. Et à part à monter très haut en altitude, bien, l'enneigement sera de moins en moins abondant, ce qui n'exclut pas de temps en temps une bonne année. Je pense que pour les territoires de montagne, effectivement, il faut se préoccuper de ce temps des prochaines décennies et de voir comment, justement, cette évolution climatique qui va se poursuivre dans les prochaines décennies, puisque les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas réduire du jour au lendemain, comment on s'adapte à ce changement climatique, comment on essaie d'en réduire les impacts, à la fois sur les causes et sur les conséquences. Et effectivement, ça demande de croiser en fait différents types de savoirs, des savoirs scientifiques, mais aussi des savoirs profanes, des savoirs locaux, et de prendre en compte aussi les perceptions des différents acteurs du territoire dans leur appréhension de la montagne.
On va en discuter avec le directeur de la station d'Orion-Noyer, qui nous attend, Camille. Alors vous allez vous faire votre petite descente à ski, dites donc.
Petite descente, je vais faire mon petit plaisir. Alors je sais qu'il y a des auditeurs qui vont hurler, je suis désolée, Je vais quand même le faire.
On va parler de cette activité, justement, de la pratique du ski dans ce contexte, évidemment, de réchauffement climatique, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent. Est-ce qu'on peut à la fois entamer une transition et continuer à développer cette activité? Ce sont vraiment toutes ces problématiques dont on va parler dans un instant. Merci beaucoup, Jean-Louis Lechêne, de nous avoir emmenés dans vos montagnes. Et puis, on va redescendre en télésiège avec Samuel.
Et moi, j'y vais, j'enfile le casque.
Et Camille nous retrouve en bas.
Allez, à tout à l'heure.
Et soyez prudente, cher ami.
Mets le casque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Rolling up to vote, I took my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint to change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? You dream of freedoms on a curfew. Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got heart for the aching? No such thing as a kingdom when tomorrow's done for the children. They chop it up and divide. So meet me at the borderline.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Eh bien, ça y est, nous sommes arrivés au pied de la station pour cette Terre au carré dans le domaine skiable de Cotteret à l'occasion de notre semaine pyrénéenne. Alors comment justement cette station, entre autres, prend en compte le réchauffement climatique? Et la grande question, est-ce qu'on va pouvoir skier ici dans 20 ou 30 ans seulement? C'est ce qu'on va voir avec vous, Dorian Noyer. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur général du tourisme et directeur de la station. Vous êtes content, ça se passe bien, oui. Il y a même des gens qui applaudissent, qui ont l'air très heureux là ici. La température est douce, hein, il fait combien là aujourd'hui?
2 degrés.
2 degrés, donc ça va, c'est plutôt doux.
Oui, des nuits très fraîches, mais par contre en journée c'est plutôt très agréable.
Ouais. Samuel Morin, notre chercheur à Météo France, est toujours avec nous. Alors Camille devrait quand même pas tarder à nous rejoindre après sa descente à ski de la crête. Ah, d'ailleurs on me signale dans l'oreillette qu'elle est même en ligne avec nous. Camille, vous en êtes où?
Olé. Ah ben je crois que je suis en train d'arriver. Je suis à... je sais pas, quelques centaines de mètres du cœur de la station, je la vois de loin. Donc vraiment, ouf, petite bosse. Le panorama, il est magique avec toutes les montagnes autour, bien évidemment. Donc il y a le cirque juste en face. J'ai tout dévalé, je sais pas combien de centaines de mètres j'ai dévalé, mais c'est vraiment un magnifique panorama. La neige est pas trop mauvaise. Ça glisse un peu, je vous fais un petit peu écouter. Je vous préviens, c'est pas pratique. Voilà, je suis quasiment seule sur les pistes, je vous avoue, il n'y a pas grand monde là, il y a juste un surfeur devant moi. Hop, petit virage. Attention à droite. Ça va, elle est bonne?
Elle est excellente.
Voilà, petit vent de face. Voilà, ça y est, je suis en approche, je vous aperçois au loin, donc je vous dis à tout de suite.
Alors, mais oui, je vous vois. Voilà, vous allez trouver beaucoup plus de monde d'ailleurs à votre arrivée. Soyez prudente, chère amie. Il y a beaucoup de monde là quand même.
Attention, il y a les pioupiou à côté.
Ouais. Il faut pousser un petit peu pour l'arrivée. Et dérapage contrôlé.
Et hop.
Et tout ça en direct sur France Inter. Voilà. Il y a plus de monde ici, effectivement, que tout là-haut. Dorian Noyer, vous avez eu la chance depuis de très nombreuses années d'avoir un enneigement vraiment particulier. Qu'est-ce qui fait que vous soyez assez gâté ici? Parce que vous avez quasiment un enneigement garanti de novembre à avril. Comment on explique ça alors?
Ça fait rêver, hein. Oui, on ouvre fin novembre, 25 novembre, pour fermer 25 avril. Avec une particularité, c'est qu'on est déjà un site perché à 1850 mètres.
Ouais.
Avec un contrefort en forme de cirque, avec on prend les perturbations qui arrivent du nord-ouest, qui sont relativement fréquentes et fortes, et on a un manteau neigeux ici avec des cumuls qui sont fort importants. Oui.
Ouais. Donc par rapport aux autres stations pyrénéennes, vous avez un surplus de neige, on pourrait dire des choses comme ça?
Alors, difficile de se comparer aux autres, mais disons qu'on a un bénéfice neige qui est fortement intéressant sur une période de début de saison et de fin de saison. C'est pour ça qu'on arrive à ouvrir tôt et fermer assez tard.
Alors pourtant, Samuel Morin nous le disait, le manteau neigeux sera de moins en moins abondant dans les prochaines années. Comment on compose avec cette donnée dans un domaine skiable comme le vôtre?
Alors déjà, on commence par étudier, par savoir ce qui s'est fait dans le passé, et également écouter les chercheurs. On a fait faire des études pour se projeter un petit peu sur les 20-30 ans, sur le milieu du siècle, pour savoir comment se comporter les enneigements. Et puis après, forcément, on va profiter de cette belle capacité à recevoir de la neige pour orienter nos investissements, pour poursuivre cette neige naturelle et non pas cette neige de culture.
Mais vous, ici à Cotteret, vous êtes assez privilégié. C'est un pan de montagne qui a un enneigement assez important, mais j'imagine que vous êtes en relation avec les directeurs d'autres stations alentour Pyrénées, mais même en France. C'est un peu difficile pour beaucoup, j'imagine.
Alors, il y a une grosse réflexion. Il faut savoir qu'on sort d'une année très particulière où on a eu le temps de réfléchir. Je pense que l'année Covid a été un accélérateur de conscience de tout le monde, et entre autres de ce réchauffement. Et forcément, et la profession et l'ensemble des professionnels de la montagne ont apporté une grosse réflexion sur ce futur proche.
Impossible de nier le changement climatique quand on est directeur de station aujourd'hui.
Non, bien sûr que non. Non, c'est une évidence. Je veux dire, les études nous l'ont montré. Le résultat, on voit bien qu'on a commencé une belle saison. On a eu des périodes de douceur. On a eu beaucoup de pluie jusqu'à 2700 mètres. Donc on voit bien qu'il y a des changements qui sont brutaux et qui sont très marqués.
Ouais. Est-ce que, quelque part, vous pensez que votre activité, tout simplement, a de l'avenir? Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune, soit directeur de station de ski un peu plus tard?
Bien sûr.
Ah bon?
Non, bien sûr. On faut savoir que quand on parle de station de ski, on parle de station de montagne. La montagne, on peut avoir autant d'utilisateurs de la montagne en été qu'en hiver. Il faut savoir que Cotteret, c'est plus de 600 000 nuitées en hiver. Et 600 000 nuitées en été.
C'est bien pour ça que j'ai parlé de ski, moi.
De ski. Non, mais le ski a un bel avenir encore à Cotteret. Alors, c'est sûr que c'est difficile de se projeter au-delà de 2050. Mais en tout cas, les pronostics sur Cotteret sont plutôt très encourageants.
Samuel Morin, on a un message d'auditeur là sur franceinter.fr. C'est Léopold. Il nous dit bonjour. Est-ce bien raisonnable de parler du réchauffement climatique depuis le haut d'une station de ski? Nous sommes très déçus de votre part. Alors, évidemment, ça nous est adressé à nous
en
particulier.
C'est moi qui viens de me faire une descente.
Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique aussi pour nous. D'ailleurs, on s'est posé la question. Mais c'est une région aussi ici qui est concernée directement, et c'est un problème qu'il faut prendre en compte parce que tout le monde réfléchit là-dessus. Qu'est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pourriez lui répondre?
Ce que je peux répondre, c'est que les effets du changement climatique, on les voit dans tous les pans de l'activité humaine, y compris le tourisme, et y compris les stations de sport d'hiver qui sont une des composantes du tourisme, et ça fait partie du paysage en quelque sorte de nos sociétés, et on peut pas, pour une raison arbitraire au départ, ne se focaliser que sur certains pans d'activité, et il est légitime et utile de se préoccuper aussi de l'évolution climatique en montagne, de ses impacts sur les différentes activités humaines qui s'y développent, et en particulier le tourisme.
Parce qu'on rappelle que le ski, l'activité de faire du ski est très minoritaire dans la population française. Je crois que c'est à peine 10% de la population, je crois. Combien,
Dorian? 7%.
7%, voilà, c'est ça. Mais quelque part, Samuel Morin, c'est un exemple qui incarne une situation beaucoup plus globale, peut-être?
En fait, il y a deux façons de le voir, effectivement. C'est la neige, du fait de sa sensibilité aux conditions météorologiques. On comprend bien que s'il fait plus chaud, on a moins de neige. On l'observe et on le comprend bien. Et donc, quelque part, l'activité touristique basée sur le ski, on mesure depuis plusieurs décennies à quel point c'est une activité qui est sous la menace du changement climatique. Donc, il y a un côté un petit peu emblématique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'activité touristique en montagne, c'est un des pans d'activité importants de ces régions. et que si effectivement certains engagent une transition, ben, la transition, on l'a fait à partir d'un point de départ, et le point de départ, c'est là où on est aujourd'hui.
Alors, Dorian Noyer, on va y aller d'ailleurs ensemble, on va marcher, et puis en plus, ça nous permettra de faire entendre un peu la neige aussi à nos auditeurs. On va se diriger vers un instrument qui, on doit l'avouer, nous pose beaucoup de questions et qui pourrait d'ailleurs symboliser à lui-même l'absurdité d'avoir de tels outils dans le contexte d'un réchauffement climatique. C'est le fameux canon à neige.
D'ailleurs, la neige sur laquelle on marche, là, c'est de la vraie neige ou pas, Dorian Noyer ?
Alors oui, bien sûr, il y a de la vraie neige. Il faut savoir qu'on est fin janvier, début février même. La neige de culture est faite essentiellement en avant-saison. C'est-à-dire qu'on prépare le manteau avec des enneigeurs qui vont tourner, on va dire, sur le mois de novembre-décembre. C'est là où on va faire la plus grosse quantité de neige, même la seule cette année. Hein, puis savoir qu'on a
combien
arrêté...
vous en avez fait ici à Cotteret, par exemple là ?
Cette année, Laurent, 40 000 mètres cubes.
Alors Laurent, on va lui donner la parole, parce qu'en plus, il fait un métier que j'avoue, je ne connaissais pas. Vous êtes nivoculteur.
Oui, c'est ça.
Alors quel est ce métier ?
Ben, on produit de la neige artificielle, on pourrait dire, alors qu'elle n'est pas artificielle. C'est juste de l'eau qu'on propulse et qui va se transformer en neige avec la température négative.
L'eau, vous la prenez où ? Comment ? Racontez-nous, en fait, en gros, entre le moment où elle sort de ce canon et où elle entre, qu'est-ce qui se passe ? Elle est où ?
Ben, c'est de l'eau qui ruisselle dans le cirque, qu'on collecte soit sur une réserve qu'on a un peu plus haut.
Où ça, là-bas ?
Oui, c'est ça, de 20 000 mètres cubes à peu près. Et ponctuellement, on a un autre captage sur un cours d'eau qui descend en bas de la station. Et ça, c'est pour des, on va dire, des productions qui sont plus ponctuelles, où on va utiliser que quelques canons. Donc, ça nous permet d'avoir un plus petit débit.
Et entre le moment où vous récupérez l'eau, donc sur des captages, et où elle sort en forme de neige, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on parle quand même, il y a effectivement la guerre un peu de la sémantique, neige artificielle, neige de culture. Il y a récemment, par exemple, à la Clusa, dans les Alpes, des défenseurs de l'environnement qui sont venus s'installer pour ne pas qu'il y ait une nouvelle zone de captage. Donc, qu'est-ce qui pose problème, en fait ? Parce qu'entendu comme ça, on a l'impression que c'est pas très grave.
Mais disons que c'est plus par le fait de retenir l'eau dans la station, mais une fois que la réserve est pleine, elle s'écoule normalement vers le bas de la vallée. Et on la produit sans additifs, donc une fois que la neige fond...
Il n'y a aucun produit. Il n'y a aucun produit. C'est que de l'eau.
C'est que de l'eau et de l'air comprimé. Quoi. Ouais.
Samuel Morin, quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment l'objet du délit, le canon à neige ? Et quel est l'impact carbone exact ? Ça a été étudié, ça, ou pas ?
Il y a peu d'études sur l'impact carbone spécifique de l'enneigeur, du canon à neige. Il y a des analyses qui ont été faites sur l'empreinte carbone de l'activité d'une station de sport d'hiver en général. Si on prend les enneigeurs, les remontées mécaniques, l'activité des dameuses, tout ça, ça correspond à peu près à 2 à 4% des émissions de la destination touristique. Ce qui compte le plus dans la destination touristique, c'est avant tout le transport des gens qui se rendent dans la station, en avion, en voiture, etc. Et puis le logement sur place, et puis l'ensemble de l'infrastructure, l'alimentation des gens qui sont sur place.
Et alors le canon, il pèse quoi là-dedans ?
Il pèse très peu du point de vue du total. Là où il pèse beaucoup, et on le voit encore aujourd'hui dans votre émission, c'est à quel point il a une valeur symbolique très forte. C'est-à-dire que c'est à la fois... La réduction de l'enneigement liée au changement climatique, c'est un révélateur de ce changement climatique. Et l'enneigeur, le canon à neige, c'est quelque part un révélateur des méthodes mises en œuvre pour essayer de limiter l'impact de ces fluctuations d'enneigement d'une année à l'autre et de cette réduction à long terme sur l'activité économique d'un secteur touristique qui est lui-même fortement émetteur de gaz à effet de serre. Donc on comprend bien qu'il y a un certain nombre de paradoxes, il y a un certain nombre de facteurs complexes dans cette question-là. Et quelque part, la production de neige, c'est... en quelque sorte, la pointe émergée de l'iceberg, de la complexité de cette problématique-là et qui est particulièrement visible.
Donc il y a d'autres problèmes prioritaires, avant même le canon à neige, selon vous, à attaquer sur le front justement de l'empreinte carbone ?
Alors, sur le front de l'empreinte carbone de la destination touristique, très clairement, le transport et le logement, c'est les principaux facteurs.
Allez, l'activité de ski est-elle compatible avec la transition écologique ? Ben justement, c'est le sujet aujourd'hui de notre Terre au carré. Mais pour le moment, à 14h32 et 34 secondes, c'est Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, vous passez toujours au vert, bien sûr, dans les Pyrénées, à la rencontre des skieurs.
Et j'ai effectivement encore pris sur moi pour cette chronique en passant mon samedi à glisser sur les pistes de la jolie station familiale de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, bon, ben vous me connaissez, hein, fallait bien que je la fasse.
Mais oui.
Et j'étais évidemment pas seule à slalomer avec mes skis.
Ouais, on fait du snow, c'est pareil, on glisse quoi.
Moi j'adore, parce que la neige elle est poudreuse. Et du coup, c'est trop bien.
Moi aussi, j'aime le ski et j'aime bien aussi glisser parce que du coup, tu prends l'air et en même temps, tu t'amuses.
Allez, vas-y, 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 pousse. Ah, voilà, tourne. Retourne.
J'aime bien cette sensation de liberté qu'on peut avoir là-dedans, quoi.
C'est un plaisir pour moi, puis c'est une passion depuis toute petite.
On va en profiter tant qu'on peut, après, je ne sais pas. Je sais pas ce qui arrivera par la suite.
Eh oui, franchement, vous croyez quoi, que j'allais faire comme si de rien n'était? Eh ben non, il y a des pratiquants qui sont bien conscients que la situation a pris un mauvais virage.
On est dans la consommation.
Oui, surconsommation de la montagne même, quand on voit le monde.
Bah, c'est un business. Hein. Business is business.
C'est un parc d'attractions, on ne fait pas sensiblement trop attention à la montagne et à ce qui nous entoure finalement.
Il y a une forme un peu d'égoïsme
Ah bah clairement. On profite d'abord et puis on réfléchira après sûrement. Ça serait bien de s'y mettre.
Sauf que tout le monde n'y est pas totalement prêt, comme entre autres Fred et Greg, avec qui je me suis retrouvée à papoter sur le télésiège.
Bonjour. Ah, France Inter. Bonjour France Inter.
Comment ça va?
Bien et vous?
C'est plutôt pas mal ma vie, non?
C'est clair.
Vous skiez beaucoup, je fais un sujet sur les skieurs, l'avenir des stations de ski, avec notamment les enjeux écologiques, n'est-ce pas?
L'intérêt écologique, honnêtement, ça a toujours été, ça fait marcher énormément de gens dans la station aussi, il faut pas l'oublier.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout conscience de cet impact. Ici, c'est pas le... Enfin, ça va être un peu dur ce que je veux dire, mais c'est pas l'objectif de notre séjour. Ça va pas m'empêcher de redescendre et de prendre beaucoup de plaisir et de me vider la tête là-dessus, quoi, malheureusement. Et là, merci, vous venez de me faire perdre mon insouciance de l'après-midi, quoi. Maintenant, je vais être là, vers mon impact. Alors... Ah, oui, merveilleux.
Alors ils gardent le sourire et ils assument, hein. Pas seuls d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à trouver mes questions, allez, on va dire pénibles.
Vous y pensez là quand vous skiez à tout ça ou pas, franchement?
Non, franchement non. Vous êtes en train de me faire culpabiliser.
C'est chiant les questions sur la pollution. On culpabilise vachement après.
Quoi. C'est vrai?
Ouais, bon, je pense que ça pollue une station, mais beaucoup moins qu'une usine pétrochimique par exemple, où je pense qu'il y aura des efforts à faire ailleurs que... Et... Ici, quoi.
Ah voilà, alors ça c'est un argument qui est beaucoup revenu, le « il y a pire que les stations de sport d'hiver comme source de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre ». Quant au manque de neige, alors j'ai trouvé Mister Mauvaise Foi.
Quel manque de neige, j'en ai eu autant.
Et tout ça pour lui c'est quoi?
Des débats de citadins.
Des débats de citadins, très nombreux à fréquenter les pistes, oui, mais à voir aussi une réalité plutôt concrète.
Le réchauffement climatique, il persiste de plus en plus. Ça se voit parce que là-bas, par exemple, il y a des pistes qui sont marron et d'habitude, elles étaient blanches.
Ouais, il y a moins de neige quand même, ouais. C'était au taquet de neige, quoi, au mois de février, enfin, ça c'est
sûr. Et est-ce qu'il y avait, par exemple, autant de canons à neige?
Non, il n'y a pas tout ça. On fabrique pas, il n'y avait pas autant de neige de culture. Là, t'en vois partout, quoi, partout.
Un autre problème pointé régulièrement du doigt par les associations écologistes en particulier.
On ne va pas pouvoir continuer à utiliser de l'eau potable pour faire de la neige. Et donc il faudra peut-être prévoir d'autres activités, de la rando, des balades. Je sais pas, il y a un sujet.
Alors donc, ouais, j'ai continué de chercher. Hein.
Ok. Réservé aux experts. Non, mais du coup, je ne vais pas trop y aller.
Non, Marina, elle a des choses à dire.
On va exploiter la montagne en sport d'été plutôt qu'en sport d'hiver vu qu'il y a moins de neige.
Moi, c'est ça que je retiens. Elle veut exploiter la montagne.
Aïe, 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 on ne s'en sort pas. Allez, une dernière idée côté piou-piou.
Les animaux, ils habitent ici et des fois, ils n'ont jamais de calme parce que ici, c'est une station et c'est là où il y a plein de gens qui font du ski là.
Moi, je voudrais qu'il y ait une montagne que pour les animaux, pour qu'ils habitent et tout ça.
Et une autre que pour nous, alors?
Oui.
Alors c'est bien mignon, hein, mais c'est en fait un petit peu quand même déjà la situation actuelle qui ne semble, on le sait, plus du tout suffisante ni cohérente.
Et Camille Passauvert, retour à Cotteray évidemment, dans les Hautes-Pyrénées.
Dorian Noyer, directeur donc de la station de Cotteray, est-ce que vous voyez des comportements évoluer parmi les clients qui fréquentent votre station? Est-ce que par exemple, il y en a qui aujourd'hui se disent « bah tant pis, je prends pas les remontées mécaniques et puis je vais faire un peu plus de sport et je vais me faire du ski de rando pour avoir un impact un peu moindre ?»
Alors, il faut savoir que les stations, un visiteur sur deux ne skie pas. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent en tant que touristes, en tant que vacanciers, profitent également d'autres installations qu'il peut y avoir dans la station. Le ski de randonnée, la luge, le contemplatif, hein, qui vient juste découvrir. Donc, on l'a ressenti essentiellement l'an dernier, hein, avec cette période de fermeture des remontées mécaniques, qui ont été quand même un gros électrochoc pour les stations. Et bien, on a pu profiter quand même de la montagne et découvrir l'activité ski nordique. Demain, vous allez au Pont d'Espagne. Vous allez voir que c'est un site merveilleux, en plein cœur d'un parc national. Et il y a une approche différente.
Et dans les stations, par contre, vous ne voyez pas des comportements changer? Alors, on entendait des gens dire « oui, on sait, mais en fait, il y a pire et donc nous, on profite ». C'est encore ça la mentalité aujourd'hui?
Alors oui, il faut savoir qu'on a réouvert il y a 2 mois. On est vraiment sur un élan de redécouvrir la montagne, de redécouvrir le ski. Donc on sent qu'il y a, non, les mentalités n'ont pas forcément changé. Il y a des questionnements. Mais par contre, le public est toujours là. On n'a jamais eu autant de monde que cette année.
Bonjour Claude Florence.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la trésorière de l'association Cotteray de Venir. On va en parler dans un instant. Juste la vocation de votre association ici.
C'est la préservation de notre environnement, de notre cadre de vie, de notre patrimoine en général.
Ouais.
Et aussi engager une réflexion justement sur la situation actuelle de réchauffement et d'évolution d'équipement de nos stations.
Alors vous êtes la femme du maire de Cauterets, Jean-Pierre Florence, sans étiquette, hein, qui a été élu en 2020, mais plutôt écolo. Et on va en parler dans un instant, évidemment, pour voir quelles sont aussi les luttes que vous menez ici pour l'environnement dans la région. Ce sera juste après Hubert Félix Thieffen.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, dis-moi. Suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leurs boniments. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant.
Les 4 saisons de la Terre au carré. Saison 2, l'hiver dans les Pyrénées.
Et justement, est-ce la fin du roman pour le ski ici dans le contexte du réchauffement climatique? Nous sommes à Cauterets, donc dans les Pyrénées, avec Dorian Noyer, le directeur de la station, Samuel Morin, donc qui est météorologue et chercheur, et donc Claude Florence qui est avec nous également de cette association Cauterets Devenir. D'ailleurs, on a une question pour vous, Claude Florence, c'est de la part de notre auditrice Maude. Il n'y a pas que le bilan qui est carbone qui est problématique, il y a l'empreinte sur la biodiversité, dit-elle, la faune, la flore mise en danger, l'installation des infrastructures, l'occupation des espaces par les humains en hiver, piétinement et pollution l'été. Est-ce que vous menez des travaux justement à ce sujet parallèlement à tout ce qui concerne le climat?
Nous, on a lutté depuis 10 ans contre une remontée qui était prévue vers Luz, depuis le village de Cauterets jusqu'à la station de Luz, justement pour préserver cette biodiversité. C'était prévu dans un site plutôt peu impacté par l'homme et habité par des espèces, notamment le coq de bruyère,
ouais,
et qui pouvait être mis à mal par la station de ski, et ainsi que tout le milieu naturel environnant. Donc on a travaillé à ce que cette liaison ne se fasse
c'était
pas.
C'était quoi? Agrandir encore plus un domaine skiable, en fait,
c'était
c'est ça, hein?
Pas pour l'agrandir, c'était pour mener à un autre domaine skiable.
Ouais.
Puisqu'il fallait redescendre dans la vallée et reprendre une autre remontée.
Vous skiez, vous, Claude Florence, ou pas?
Je ne skie plus.
Et comment, je vous pose une question un peu délicate, mais Mathieu disait tout à l'heure, vous êtes l'épouse du maire de Cauterets. Cauterets, évidemment, l'activité donc économique principale, c'est la station de ski. Vous êtes d'une association de défense de l'environnement. Comment ça se passe à la maison et comment vous arrivez à, quelque part, à associer cette espèce de
dichotomie.
Je
ne vous dirai pas comment ça se passe à la maison, mais c'est vrai que notre association a une ligne de conduite depuis 10 ans. On ne lutte pas contre le ski. Le ski, c'est une tradition à Cauterets. On est tous skieurs.
Qui paraît complètement incompatible skieurs. Avec ce que vous défendez.
L'installation et les installations sont déjà là. Donc on ne va pas, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, du jour au lendemain changer. Là, c'est le point de départ de la réflexion et de l'évolution. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à partir de maintenant, une réflexion soit engagée sur l'avenir et qu'on commence à prévoir comment on va pouvoir petit à petit peut-être diminuer cette activité et la remplacer, surtout la remplacer. Parce que
Dorian Noyer, justement, c'est une économie, ce sont des métiers concrètement pour les gens qui vivent ici. Donc comment on réfléchit collectivement avec la population à ces questions et comment justement on invente d'autres types de loisirs ici pour l'avenir?
Alors c'est une réflexion qui est en cours déjà depuis de nombreuses années sur Cotteret. Hein. Cotteret, il faut savoir qu'il y a une activité estivale autre que ski, déjà très très forte mais depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça existe sur Cotteret, on ne vient pas que faire du ski. L'activité estivale en est un marqueur et puis la fréquentation du village, même en cette période de l'année, est relativement forte. Mmh. Donc forcément, la transition, on y pense, de transformer ces journées skieurs en journées autres, journées piétonnes, journées randonneurs, contemplatifs. Mais forcément, c'est dans les pensées de tout le monde.
Mais vous parlez évidemment, vous êtes directeur de Cotteret, donc vous parlez pour Cotteret, mais j'imagine que vous avez un réseau, vous êtes des directeurs et que c'est en train de brainstormer, de réfléchir partout à l'échelle de la France, de qu'est-ce qu'on va faire. Parce que vous disiez tout à l'heure, quand même, les années sont un petit peu comptées. Donc j'imagine que vous pouvez parler de façon un peu plus globale, peut-être.
Alors, plus globale, il faut savoir que la profession rassemblée autour de DSF, Domaine Skiable de France, s'est réunie déjà depuis de nombreuses années et parle de ces 16 commandements pour changer un petit peu suite à ces changements climatiques. Donc il y a quelque chose en cours au niveau de la profession. Et ensuite, nous, au sein des Pyrénées, donc, on est réunis autour de 8 stations au sein de la Compagnie des Pyrénées où il y a une réflexion des directeurs, des dirigeants pour savoir comment on repense demain. Et forcément, c'est en cours une discussion qui a lieu quotidiennement.
Ça veut dire ne pas étendre les domaines, par exemple, ne pas construire de nouvelles remontées mécaniques?
Alors aujourd'hui, les études qu'on a fait faire, donc les études Klim Snow sur la neige demain, forcément c'est pour nous faire réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, ce qu'on pourrait faire, comment transformer ces journées neige, comment envisager un lendemain avec un peu moins de neige. Il y aura toujours de la neige sur Cotteret pendant quelques années, donc on peut forcément y penser.
Mais vous ne répondez pas à ma question, vous allez vous étendre ou pas, vous, par exemple?
Non, il n'y a aucune extension, pour savoir, vous avez vu le domaine, hein, vous l'avez visité, on est dans un cirque, il n'y a pas possible d'aller plus loin. Le parc national est à côté, est en zone Natura 2000.
Et les eaux dans les Pyrénées, pareil, pas de projection, pas d'envie de s'agrandir?
Alors, il y a des changements d'appareils qui sont prévus, dans d'autres stations, certainement, mais par contre, pas d'extension, non. Il faut savoir que les domaines Cotteret, première remontée mécanique, 1964, avec des projets qui datent de 1936. Donc, vous voyez, il y avait quand même une histoire autour du ski relativement, par nos aînés. Il faut savoir que Cotteret et la station de ski est à 1850 mètres. Le village est à 900. Donc on a déjà pris la décision depuis de nombreuses années de faire du ski à haute altitude pour monter un peu plus haut et pas descendre en ski jusqu'en bas.
Samuel Morin, donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que cette activité de ski aujourd'hui, elle est compatible avec la transition écologique, tous les efforts qui doivent être menés pour justement baisser les émissions de gaz à effet de serre? Que répondent là encore les scientifiques à cette question?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vient d'entendre, il y a une prise de conscience croissante de à la fois la vulnérabilité de ce secteur économique à l'impact du changement climatique. Il y a aussi une prise de conscience croissante, mais qui n'est pas propre au territoire de montagne, qui est plus large que ça, sur la responsabilité des sociétés humaines en termes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi d'atteinte à la biodiversité.
C'est mais évidemment... si on va aller droit au but, alors, c'est quoi la réponse à cette question? Vous, hein, en tant que chercheur, vous pensez que vraiment on peut continuer à faire du ski tout en préservant le climat et en anticipant ce qui va se passer plus tard?
En fait, on peut continuer à faire des efforts pour limiter cette empreinte-là. Ça demande des transformations qui sont profondes. Et quelque part, s'attaquer au fondement de la crise climatique, ça demande des actions en profondeur dans tous les volets de la société. Et ça veut dire que tous les secteurs sont concernés, et le tourisme évidemment parmi eux.
Et il y a beaucoup de messages aussi sur franceinter.fr, à la page de la Terre. Il y a beaucoup d'auditeurs furieux qu'on soit ici, il faut le dire, hein, dans un domaine skiable, mais c'est évidemment intéressant d'en parler tous ensemble, et qui nous rappellent quand même que cette activité est une activité de personnes riches, avec des moyens.
7% on le redit, de la population.
7% de la population,
hein.
Et que, encore une fois, ce sont les personnes les plus riches sur la planète qui sont, Samuel Morin, les plus émettrices de gaz à effet de serre.
Bien sûr, au niveau planétaire, on sait qu'il y a une corrélation très très forte entre les émissions et la richesse individuelle, et également au point de vue des sociétés d'un pays à l'autre. Et effectivement, il y a une responsabilité individuelle et collective en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et il n'y a pas de raison que le tourisme fasse exception à ces réflexions-là.
Ouais. Claude Florence, pour répondre vraiment à ces colères qu'on lit là, hein, sur les réseaux sociaux et qui sont ici très très nombreux, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui nous écoutent?
Je dis ce qu'a dit Dorian tout à l'heure, c'est que tout le monde ne skie pas en venant à Cotteret. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a des des sites pas du tout impactés par le ski. Et les promenades sont nombreuses autour de Cauterets. Sur tous les visiteurs qu'on a, il y a un faible pourcentage qui skie dans l'année.
Pardon, je vais vous dire quelque chose d'un peu abrupt, mais on n'est pas là non plus pour faire la promo de Cauterets. Je le dis aussi aux auditeurs qui nous écoutent. On parle du ski alpin en France. On a pris Cauterets comme exemple, mais on parle d'une globalité, vous qui défendez l'environnement. Aujourd'hui, une activité qui concerne 7% des Français les plus riches, majoritairement. Est-ce qu'en gros, on ne pourrait pas s'en passer tout simplement?
Évidemment qu'on pourrait s'en passer, mais nous avons toute une activité économique autour du ski pour le moment, donc il faut réfléchir à l'avenir et anticiper le changement climatique, mais pour le moment on peut pas d'un coup arrêter cette activité là sur les villages. Ça fait vivre les villages de montagne et ces villages là ils ont des habitants, il faut pas l'oublier.
Alors comme partout il y a des coulisses dans les stations de ski, Camille, vous êtes allée voir ce qui se passe dans ce que on pourrait qualifier d'œil de la station, hein, c'est ça?
Oui, en plein cœur, hein, sous les restaurants, il y a ce qu'on appelle le central où remonte absolument tout ce qui se passe et où on gère aussi le risque avalanche en particulier, parce que il y a tout un système préventif qui est mis en place et qu'on ne voit pas forcément, donc je suis allée faire un petit tour pour en savoir plus. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il paraît qu'on est au central ici, c'est ça?
Oui, excusez-moi, on m'appelle.
Ça commence.
Milan Rossi, tu t'en charges, Olive?
Oui, bonjour madame.
Vous êtes Milan alors?
Oui, tout à fait. Donc je suis Milan, responsable des pistes et du damage sur la station. Ici, c'est l'endroit où on centralise toutes les informations. Nous avons une personne qui est dédiée justement à noter et à suivre la main courante sur tout ce qui se passe dans la journée. Là, vous entendez les radios.
Et c'est aussi ici que vous gérez un peu toute la partie topographie, risque d'avalanche, etc.
Je vais vous montrer le plan d'intervention directement. Voilà, plan d'intervention, déclenchement d'avalanche.
Et vous avez les points avec les gazex.
Et c'est
les
quoi ça, des gazex?
Alors le gazex, c'est un
mélange. Gaz explosif, ça veut dire, non?
Voilà.
C'est-à-dire quoi? C'est deux gaz
qui sont mélangés. On commande le tir d'ici.
Ça veut dire que les déclencheurs sont déjà positionnés dans la montagne?
Voilà, c'est un plan qui a été étudié, qui est validé en préfecture avec des points de tir précis. On a aussi du grenadage à main. Donc là, c'est pareil, c'est des endroits très précis qui sont cartographiés et dans lesquels on ne sort pas. Grenadage par hélicoptère.
Par hélicoptère, c'est pas très écolo, ça.
C'est pas très écolo, c'est quand on ne peut pas atteindre d'une autre façon les pas de tir. C'est parce qu'on a des appareils qui sont en panne. À ce moment-là, on est obligé d'utiliser de l'hélicronadage.
Mais c'est
plus rare. Oui, c'est très rare.
Il y en a combien au total sur la station?
Alors, des gazex, vous avez barre 3, 5 et 2, 7, 8. Vous pouvez les apercevoir, ce sont les longs tubes que vous voyez sortir de la montagne.
Ça,
vous en avez un juste sur le piton rocheux,
face
de nous. Voilà.
D'accord. Et donc ça, à distance, et ça va déclencher.
Voilà, à distance, ça va déclencher et on va pouvoir avoir une explosion préventive qui va amener un écoulement. Milan, écoute.
Milan est très occupé. Vous n'arrêtez pas?
Non, j'arrête pas.
Est-ce que c'est fréquent? Et est-ce que le réchauffement climatique peut favoriser ces avalanches?
Oui, bien sûr, on s'aperçoit que de plus en plus, on a des grosses accumulations sur des périodes beaucoup plus réduites. Donc ça fait que ça amène d'énormes quantités de neige. Il faut être très vigilant à ça, parce que c'est derrière des risques d'avalanche accrus.
Bon, et là, cette semaine, ça se présente comment? Là, ça s'annonce comment?
Pour l'instant, on n'a pas de problème de plan d'intervention déclenchement avalanche parce qu'il n'y a pas de chute de neige. Donc les rares chutes comme cette nuit où il a mis 5 cm avec le transport, ça n'entraîne pas un plan d'intervention.
Okay. Donc on est tranquille?
Pour le moment, vous pouvez venir en ski en toute sécurité. Bon, c'est toujours le cas, mais plus particulièrement. Et puis c'est tellement agréable avec le soleil.
Samuel Morin, que montrent les recherches là, sur le lien entre réchauffement climatique et avalanche aussi?
Ce à quoi on assiste pour les avalanches, comme pour d'autres risques naturels en montagne, c'est un changement du caractère de certains risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des nouveaux risques qu'on n'avait jamais vus, mais on retrouve des avalanches, par exemple, de type printanier, en plein cœur de l'hiver. C'est-à-dire que quand il y a des précipitations pluvieuses, quand le manteau neigeux se réchauffe, on a plutôt l'habitude de le gérer au printemps, et là, on a de plus en plus des cas en hiver. On a aussi des événements de précipitation très intenses qui modifient le caractère de ce risque.
Donc, Dorian Noyer, des phénomènes nouveaux auxquels, là aussi, il faut faire face, une adaptation nécessaire?
Oui, on l'a vu cette année, hein, avec des cumuls très, très importants sur le début de l'hiver et après avec plus de 100 000 mètres d'eau jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Oui. Donc on a eu des phénomènes d'avalanche très très forts sur une période très courte.
Allez, c'est le moment de retrouver Anaël Verzo sur le front des luttes pyrénéennes toute cette semaine. Une lutte aujourd'hui non loin de la frontière espagnole, en vallée d'Aspe, sur la route nationale 134, avec Vanessa, Vincent et Denis qui se battent avec le collectif Stop Camion contre le passage incessant des poids lourds dans cette magnifique vallée classée.
Allez, et c'est reparti.
On est sur une route nationale, en dessous de l'Esquin. On est entouré de montagnes, hein, c'est magnifique. Alors là, on va retrouver tout un groupe de personnes qui sont mobilisées contre le passage de ces camions, là, sur cette nationale.
Ah, bonjour. Ça va ?
Alors là, on arrive à un rond-point, ouais, qui est le rond-point d'Acous. Là, il y a Vanessa avec des autocollants, collectif Stop aux camions, oui, en Vallée d'Aspe. Ni ici, ni ailleurs, voilà, mobilisons-nous. Comité des habitants pour la vie en Vallée d'Aspe, pétition.
Oui. Les gens ici sont excédés par le passage des camions.
On est à une vingtaine d'accidents, en fait, depuis l'ouverture du tunnel. Il y a eu deux fois le feu dans le tunnel aussi.
Le tunnel du Somport,
toujours. Le tunnel du Somport,
le dernier. Il est ouvert quand, le tunnel du Somport ?
Alors, le tunnel du Somport, il a été ouvert le 17 janvier 2003.
Dont juste un accident mortel de camion.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Donc c'était le 28 août 2018. Donc à l'époque, j'étais maire adjoint de la commune de Bors. Et donc un camion rempli de chlorate de sodium quitte la route et va s'encastrer dans le gave en déversant 12 000 litres de chlorate de sodium dans la rivière en même temps. Donc destruction, un écocide réellement. Et le chauffeur qui meurt dans d'atroces souffrances, parce qu'en tant que maire, après je suis obligé d'aller constater le décès. Il a peut-être souffert, on n'a pas pu savoir, mais c'est au moins 12 heures. Il restait coincé dans son camion, asphyxié par les émanations ou quoi. Donc moi, je m'interroge, je me dis, d'un côté, un décès humain, de l'autre côté, un écocide. Et là, je prends de suite la décision de prendre un arrêté municipal pour interdire le transport de matières dangereuses sur ma commune. Cependant, je n'ai pas la compétence pour interdire la circulation de camions sur une route nationale.
Et là, il y a eu un accident à nouveau au mois de décembre, je disais.
Et donc depuis, il y a eu un autre accident. Ce sont les camions qui sont dangereux, de par ce qu'ils transportent, hein, et de par ce qu'ils aussi, ils envoient dans l'atmosphère.
Il y a à peu près, on a fait un comptage, 30% de camions de matières dangereuses. Il y a du gaz, des matières explosives, des matières inflammables, des matières radioactives qui traversent cette petite vallée d'Aspe, très étroite comme tu le vois. C'est encore plus étroit plus haut. La route est longée par un gave qui est une zone naturelle protégée, zone Natura 2000, avec des espèces protégées. Et là, en fait, dès qu'il y a un accident, les matières chimiques finissent dans le gave.
C'est un torrent.
Qui est un torrent, voilà.
Et cette route ne pourra jamais être dimensionnée, être aménagée pour être sécurisée pour du trafic de camions.
Les populations locales s'interrogent quant à ce risque de danger et de pollution, mais les autorités, pas du tout.
Il y a des groupes de pression très costauds pour la défense du camion en vallée d'Aspe qui revendiquent la création carrément d'une route à quatre voies depuis le Somport jusqu'à Oloron et au-delà pour rejoindre l'autoroute. On s'affronte aussi, c'est vraiment un conflit entre populations et des groupes de pression très puissants.
Et donc, ici, c'est l'axe 7.
Oui. Voilà, on est sur l'axe 7 jusqu'à Pau.
Ils veulent vraiment ouvrir un passage au milieu de ces Pyrénées parce qu'en fait, il y a du commerce à faire avec l'Espagne. Donc, ça coûte moins cher aux entrepreneurs de produire en Espagne pour aller le transporter dans toute l'Europe. Et il y a les Pyrénées qui bloquent. Il y a les passages que sur le côté. Mais si toutes les déviations se font, il y aura encore plus de camions qui passeront ici. Et quand on voit toutes les conséquences sur la santé à Chamonix, on a très peur qu'il se passe exactement la même chose ici.
Reportage signé Anaël Verzo. Et selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, la pollution des poids lourds causerait 350 000 décès prématurés par an en Europe. Une des solutions explorées pour freiner ce trafic dangereux, ce serait remettre en marche le train de marchandises des Pyrénées françaises en Espagne. Claude Florence, pour terminer, votre prochaine lutte, votre prochain combat ici à Cotteray.
Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le ski, mais c'est le captage des eaux du gave du Camp Basque pour faire une centrale hydroélectrique. Bon, c'est une apparence écologique, mais on ne peut pas accepter que les eaux de ce gave soient captées parce qu'il arrive dans le village et que ça a un impact visuel trop important.
Dorian Noyer, vous voyez votre station comment dans 30 ans là? Est-ce que ça sera que de la neige artificielle ou de culture pour reprendre la guerre sémantique?
Non, alors en neige de culture, il faut savoir que Cotteret c'est 4%. La moyenne française est plutôt à 30% et européenne autour des 60-70%.
Donc, 30 ans, on pourra encore glisser sur ces pistes-là?
Et en tout cas, on skiera là où il y a de la neige.
Voilà, et certains ne s'en réjouissent pas, si on en juge par le nombre de messages qu'on reçoit en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez appeler le répondeur également pour témoigner, pour vous dire ce que vous pensez de cette activité. 01 56 40 45 45. Et Samuel Morin, je voudrais signaler que vous faites partie d'un collectif de scientifiques qui a publié aujourd'hui une tribune sur France Info demandant que l'écologie soit vraiment un sujet de la campagne présidentielle. Donc, c'est à lire sur le site. Merci beaucoup à Vincent Doutre, à Anaïs Aguillon, toute l'équipe de pisteurs et pisteuses ici de Cotteret et Emma Bouvier pour les réseaux sociaux.